Seigneur, encore une fois, on te remercie pour ta parole qui est la vérité, ta parole sur laquelle nous pouvons fonder nos vies, Seigneur. Cette parole, tu l'as inspirée par ton Esprit Saint, et cet Esprit Saint est ici, au milieu de nous. Nous avons vu qu'il est d'abord autour de nous, il vient pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement, et que lorsque nous acceptons cette première relation et que nous allons plus loin, que nous t'acceptons comme notre sauveur, à ce moment-là, il vient habiter en nous. Et puis, il veut nous donner la puissance pour témoigner de Jésus en intervenant sur nous. Et Seigneur, nous te remettons ces relations et nous prions tous que nous puissions faire l'expérience du baptême avec le Saint-Esprit, cette relation qui est une relation nécessaire pour vivre aujourd'hui en témoignant de toi avec efficacité. Seigneur, merci d'enlever toute crainte, toute fausse interprétation, malheureusement trop courante dans le monde chrétien aujourd'hui, et de nous faire entrer dans cette relation si nécessaire à nos vies et à notre vie chrétienne, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous fais don du Saint-Esprit, le Saint-Esprit à son tour nous fait don de dons spirituels pour l'édification, pour la construction du corps, et nous te prions de nous aider à mieux comprendre les dons que nous pouvons lui demander, les dons qu'il veut nous accorder en fonction des tâches qu'il nous a données. Seigneur, aie toute liberté dans nos cœurs pour pouvoir agir. Et Seigneur, nous prions vraiment que ce matin, la lumière se fasse dans beaucoup de cœurs et que nous recevions les dons que tu as. Tu nous dis qu'à chacun est donné au moins un de ces dons spirituels, Seigneur, et qu'il nous appartient de les mettre en pratique pour l'Église, Seigneur, pour le bien-être de ton corps ici-bas, Seigneur. Sois à l'œuvre ce matin, sois béni. Dans le nom de Jésus, nous prions ces choses. Amen. Voilà, nous avons rappelé donc que le Saint-Esprit est une personne. C'est pas une force comme l'électricité, ou c'est une personne qu'on peut attrister par nos comportements, par nos péchés. C'est une personne qui vient nous encourager. C'est le paraclet, celui qui vient pour nous aider, être notre avocat, nous réconforter, nous consoler. Et il est aussi, nous l'avons rappelé, qu'il était saint, il était esprit, on ne le voit pas, mais on peut voir son effet dans nos vies, dans la vie de l'Église. Il est Dieu, il est la troisième personne de la Sainte Trinité, ce concept difficile à expliquer. En même temps, si on pouvait tout comprendre de Dieu, ça voudrait dire qu'on est au même niveau que lui, ou même supérieur à lui. Ce Dieu en trois personnes, c'est une vérité qui est répétée, qui est présente dans toute la Bible, dès le départ, au commencement, Dieu, pluriel, Elohim, créa les cieux et la terre. Et cette altérité dans la divinité, ce Dieu en trois personnes, c'est fondamental pour comprendre la parole de Dieu. Et nous avons vu en plus que ce Saint-Esprit, vous vous souvenez peut-être de l'image la semaine dernière du pichet d'eau qui représentait le Saint-Esprit, le verre vide qui représentait chaque personne sur cette planète, et que si on était sensible à sa conviction lorsqu'il était autour de nous, il venait en nous et on a versé un peu d'eau dans le verre. Il est en nous, mais en même temps, s'il est en nous, le monde ne le voit pas. Il faut que ça déborde pour qu'il y ait un effet. Et c'est là qu'intervient cette troisième relation dont il est question, que Jésus avait envoyé ses disciples rechercher dans la chambre haute en leur disant « Allez, mais arrêtez-vous et priez pour recevoir cette puissance qui viendra sur vous, une troisième relation qui permet aux hommes de témoigner avec efficacité. C'est souvent une frustration. On est tellement convaincu de la réalité de Dieu dans nos vies, et on essaye d'en parler autour de nous, et c'est comme on se heurte à un mur. Les gens ne... Ça passe par-dessus leur tête, ils ne comprennent pas, ils ne voient pas. Et c'est parce qu'il faut cette action du Saint-Esprit dans leur cœur pour qu'ils soient touchés par sa conviction. Et un bon conseil, c'est le conseil de, avant de parler aux hommes, à certains hommes ou femmes de Dieu, parler d'abord à Dieu de ces mêmes personnes. C'est-à-dire que vous les remettez à Dieu en disant, tu vois, cet oncle-là qui est tellement gentil, mais qui est tellement loin de toi. Travaille son cœur, que ton esprit soit à l'œuvre pour lui donner soif de toi, pour qu'il réalise plus exactement que la soif qu'il a dans son cœur, c'est pas une soif pour une plus grande villa avec une plus grande piscine, c'est pas une soif pour avoir un travail plus prestigieux, plus d'argent, c'est une soif pour rencontrer le Dieu vivant. Rends-le sensible à ta parole, rends-le sensible à mon témoignage. Et vous allez être surpris quand vous faites ce genre de prière, les occasions vont s'ouvrir, et parce que vous êtes souvent habitués à avoir des murs fermés, lorsque la porte est ouverte, vous hésitez. Et vous dites, il y a un piège là, c'est trop beau pour être vrai, passons à autre chose. Mais si vous continuez à présenter ces personnes à Dieu, les occasions vont se multiplier. Dieu va honorer votre foi, même si elle s'accompagne au départ d'une grande peur, d'une grande timidité, la peur de partager la vérité d'un Dieu en lequel il est plus facile de croire qu'en un monde sans Dieu, un monde où les choses seraient arrivées simplement par hasard. Et nous avons vu que nous avons regardé le passage de Romains 12. On va le relire rapidement, mais on va s'attacher à étudier le passage de 1 Corinthiens 12 qu'on avait regardé aussi. Romains 12, verset 4. Page 181 dans la Bible à la Colombe. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, celui qui exhorte ou encourage à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec simplicité, celui qui préside avec empressement, celui qui exerce la miséricorde avec joie. Et on a regardé un peu quelles étaient les caractéristiques de ces dons. La semaine dernière, vous êtes invité, si vous n'étiez pas là, à pouvoir écouter le message sur le site des messages de l'Église. Si vous avez des questions, vous pouvez me voir après le culte. Mais on avait fait d'abord une référence au passage de 1 Corinthiens 12. Et on va relire à partir du verset 1 du chapitre 12 de 1 Corinthiens, page 196 dans la Bible à la Colombe. Pour ce qui concerne les spirituels, dans la plupart des Bibles, vous allez avoir le mot « don » entre parenthèses. C'est-à-dire que le mot grec ne précise pas, le texte grec original ne précise pas le mot « don », mais dans le contexte, on pense qu'il s'agit des dons, mais ça peut être aussi toutes les choses spirituelles. Souvent, les hommes contemporains aujourd'hui parlent, ils veulent de la spiritualité. Peu importe à leurs yeux quel genre de spiritualité, c'est déjà un premier pas. C'est le Saint-Esprit qui leur montre qu'il y a quelque chose de plus important que juste la vie matérielle. Mais j'ai toujours le cœur qui s'attriste lorsque j'entends ce mot de spiritualité. Parce qu'il y a plein de fausses spiritualités. Et nous savons que l'ennemi de nos âmes, le diable, une personne réelle, un ange déchu, qui a des puissances fortes, qui a été vaincu à la croix, mais qui continue une bataille d'arrière-garde, qui continue à essayer d'usurper le trône de Dieu, ce diable nous peut contrefaire la vérité. Et on a même aujourd'hui des gens qui adorent le diable, c'est son plus grand souhait, c'est d'être adoré, des satanistes. Il y a des fausses religions, c'est toujours difficile de parler avec des gens qui sont sincères dans leur foi. On parlait au stand de jeudi dernier avec un jeune musulman qui posait des bonnes questions, qui était très sincère, qui ne connaissait pas du tout la foi chrétienne et qui est ici en Europe, en France, depuis 2 mois seulement, venant d'Algérie. Il est élevé, pratiquant musulman, mais c'est intéressant de savoir qu'il pense que tous les Français sont des chrétiens et que la foi chrétienne est représentée par la vie qu'il voit autour de lui. Et je lui ai dit, oh non, mon pauvre, si seulement les Français étaient chrétiens. Les chrétiens qui croient à la parole de Dieu, c'est moins de 2% de la population. Quand tu vois tous les étudiants qui passent, il faut que tu en aies vu 50 pour espérer en avoir peut-être un qui soit chrétien, et encore. Je crois que la proportion de chrétiens parmi les jeunes, je sais pas en fait si elle est représentative de la proportion globale, mais on sait qu'il y a à la fois des jeunes, et je suis heureux pour tous les jeunes, les étudiants qui sont attirés par la parole de Dieu. On remercie les organisations comme le GBU et Rebecca à Paris pour tout le travail qui est fait sur les facs. Parce que c'est le moment où les gens peuvent se décider pour leur vie de choisir en fait la vérité qui est la vraie vérité et non pas de partir sur des fausses pistes. Et donc ces choses spirituelles, Paul veut pas qu'on soit dans l'ignorance. Et je fais souvent la remarque, il y a plusieurs choses sur lesquelles il a dit « Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance ». Et ce sont souvent les sujets, les questions les plus controversées, les plus mises en question, celles où en fait il y a le plus d'ignorance. Et lorsque la Bible dit « je veux pas que vous soyez dans l'ignorance », il faut qu'on prenne, qu'on écoute avec d'autant plus d'attention. Si la parole de Dieu, si l'Esprit Saint a pris soin d'enregistrer dans la parole qu'il nous a communiquée, qu'il y a beaucoup d'ignorance possible, c'est parce qu'il y a beaucoup d'ignorance possible. Et là encore, il ne s'agit pas de se référer à une tradition ecclésiale, vous avez grandi dans telle église, peut-être chez les pentecôtistes, ou au contraire chez des frères étroits, peu importe qu'ils soient larges, étroits, charismatiques, qui sautent au lustre ou pas, ce qui compte, c'est pas d'avoir été enseigné à Calvary Chapel ou pas, c'est de savoir ce que dit la parole de Dieu. Et Paul félicitait les Béréens parce qu'ils allaient voir dans la parole de Dieu si ce qu'il leur disait était bien la vérité, était bien en accord. Et donc, il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. Et on va lire Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, quand vous étiez païen, vous étiez entraîné et dévoyé vers les idoles muettes, c'est-à-dire emmené en vain vers des idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème », c'est-à-dire « Jésus est maudit ». Et nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Si vous avez mis si vous avez la conviction dans votre cœur que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Seigneur, qu'il doit être votre maître, celui qui est votre sauveur, c'est parce que le Saint-Esprit a agi dans vos cœurs. C'est pas de savoir si on est pour lui ou pas pour lui, c'est pas un sondage, savoir si on est pour l'écotaxe ou contre l'écotaxe. Non, si vous avez cette conviction, sachez que c'est grâce à l'Esprit de Dieu qui vous a parlé. Et puis là, il parle, il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais même le même Dieu qui opère tout en tous. Rien que ces trois versets nous parlent de la Sainte Trinité. Il y a des dons variés, on n'a pas tous les mêmes, mais il y a un seul Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Ces dons, on les met en pratique, on les met au service des autres, en servant les autres, en faisant des services, en rendant des services, mais c'est le même Seigneur, c'est Jésus-Christ qui est derrière cet esprit de service et d'amour et d'édification, construction de son corps, l'Église. Et puis, une diversité d'opérations, ces dons agissent de façon différente, un peu comme le don de guérison, on le voit dans l'Évangile ou dans les Évangiles et dans le livre des Actes, que les dons de guérison s'opéraient de façon différente. Des fois c'était par des paroles, par une prière, des fois c'était en imposant les mains, des fois pour les Évangiles avec Jésus c'était en mettant de la salive dans les yeux. Une première fois, puis une deuxième fois, on a vu ça dans l'étude de Marc, mercredi dernier, avec Tonio. Mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous, c'est Dieu le Père qui est à l'œuvre. Et verset 7 est très important, « À chacun de vous est donnée la manifestation de l'Esprit, et c'est donné pour l'utilité commune. » Tous, autant que nous sommes, nous avons reçu un ou plusieurs dons, un au moins. Et c'est pas pour nous glorifier d'avoir reçu ce don. Ça, c'est quelque chose qui attriste le Saint-Esprit. Lorsqu'il nous donne quelque chose et qu'on se vante d'avoir telle ou telle capacité spirituelle. C'est un peu lorsque vous avez une bonne idée au travail et que vous voyez votre patron s'en emparer et faire croire à ses supérieurs qu'elle vient de lui et non pas de vous. L'Esprit Saint, il vous donne quelque chose pour le mettre en service, au service des autres, et vous vous dites « Oui, j'ai un grand don de foi ». Ça, c'est la meilleure garantie pour s'assurer que ce don ne va pas rester longtemps à votre disposition. Et là, il commence à faire une liste de dons. On a vu dans le passage de Romains 12 que les dons qui étaient cités étaient un peu des dons de motivation, dans le sens que c'était ces dons comme le don de libéralité, le don de service, qui allait un peu être à la base de notre motivation pour servir dans le corps de Christ. Là, les dons dont il est question, Il y en a 9 qui sont listés, si je ne m'abuse. Ils sont plus donnés pour manifester la puissance de Dieu. C'est bien d'avoir bon cœur, de vouloir aider son voisin ou autrui, mais c'est encore mieux si cette bonne volonté est accompagnée de la capacité de faire. Ça vous est peut-être déjà arrivé, vous déménagez et il y a votre grand-mère qui dit ben écoute, je viendrai t'aider. Et vous dites, ah, ça va être beaucoup d'aide pour descendre la machine à laver du 4e étage dans les escaliers. Merci, mémé. Alors, bien sûr, on peut la mettre à d'autres tâches. Elle pourra peut-être écrire sur les cartons ce qu'il y a dedans ou mettre un peu de scotch sur les boîtes. Mais ce qui compte, c'est d'avoir non seulement la motivation, mais il faut avoir la capacité de faire, de manifester la chose qu'on veut faire. Et c'est un peu les dons qui sont listés ici, ce sont ce qu'on appelle des fois des dons de manifestation. Encore une fois, c'est pas pour aller dans la rue et mettre des bonnets rouges. Moi qui aimais bien porter un bonnet rouge à la façon de Jacques-Yves Cousteau, le commandant Cousteau, maintenant, il faut que je réfléchisse à deux fois. Si je passe devant des policiers avec un bonnet rouge, je risque d'avoir des ennuis. C'est le don de manifestation avec un bonnet rouge. On va lire. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi par le même Esprit. À un autre, des dons de guérison par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses sortes de langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, nous avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, c'est-à-dire croyants ou païens, soit esclaves, soit libres, employé ou patron, on dirait aujourd'hui, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Et ça, c'est le fameux passage qui est presque humoristique, mais qui est tellement vrai. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », il n'en est pas moins du corps pour autant. Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », elle n'en est pas moins du corps pour autant. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? En effet, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire au pied « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi nos membres les moins décents sont traités avec plus de décence, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient soin également les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. On va s'arrêter ici. On voit que pour Paul, et il faut savoir que cette lettre, le contexte de cette lettre qu'il écrit aux Corinthiens, c'était justement pour corriger des hérésies, des fausses façons d'appliquer ses dons, et qu'il venait là pour corriger les choses. Le problème, c'est que certains avaient reçu ces dons et les exerçaient pour se mettre en valeur. Ils les exerçaient dans le but de s'édifier eux-mêmes. On verra qu'il y a, dans le chapitre 14, il y a un des dons, le don du parler en langue, qui est pour l'édification personnelle. D'abord, et bien sûr, si les membres sont édifiés, ils vont être capables de servir le corps de meilleure façon. Mais c'est jamais, les dons ne sont jamais donnés pour notre usage personnel. On voit l'insistance avec cette image du corps qu'est l'Église, que c'est pour qu'il y ait une interaction, qu'il y ait un support mutuel par ces dons. Et c'est vraiment essentiel. L'Église, c'est pas un sport de spectateur où on vient pour juger le patineur russe ou le patineur français, et suivant qu'on est juge russe ou français, il y a des chances qu'on va favoriser l'un ou l'autre. Vous n'êtes pas ici pour noter le pasteur ou noter ceux qui font la louange ou ceux qui font l'accueil. Non, vous venez ici pour faire partie du corps. Et si vous faites partie du corps, vous allez servir. Il n'y a aucune partie de votre corps qui ne sert à rien. Je pensais pendant longtemps qu'on pouvait sans doute se passer du petit doigt de pied. On en a deux, par symétrie sans doute. Mais à quoi sert ce tout petit orteil? Vous savez, à droite ou complètement à gauche sur le pied gauche et complètement à droite sur le pied droit. Peut-être vous l'avez oublié parce qu'il est tout petit, il n'est pas beau. Mais je me souviens avoir joué au volley pieds nus et m'être blessé ce petit doigt de pied. Et je me suis aperçu en fait qu'il était indispensable à la marche. Sans lui, je boitais. Sans lui, ma bouche criait de douleur. Mes yeux pleuraient. Et tous, autant que nous sommes, nous avons un rôle à jouer. Et notre problème, c'est qu'on se dit en fait, mon rôle n'est pas important. Et la parole de Dieu est replète et pleine d'avertissements nous disant que ce qui compte, c'est pas le rôle que Dieu vous a confié. Ce qui compte, c'est quel que soit ce rôle, que vous soyez fidèle, que vous l'accomplissiez de votre mieux, du plus sérieusement possible. Et pour faire fonctionner l'Église, il y a des tas de tâches qui sont assurées, souvent par les mêmes personnes, parce qu'elles ne veulent pas se plaindre, elles ne veulent pas motiver les gens par la culpabilité. Mais vous avez remarqué qu'il n'y a pas trop de pop-corn par terre. Il y a quelques tâches noires, mais quelqu'un a passé l'aspirateur, quelqu'un a remis les chaises en place. Il y a du travail qui doit être fait. Vous le savez, mais la question c'est, est-ce que vous demandez si vous ne pourriez pas aider dans quelque façon que ce soit? Et pour ça, on va regarder un peu les dons de manifestation. On a vu les dons de motivation, on verra une autre liste probablement la semaine prochaine. Mais dès aujourd'hui, je vais vous confier un questionnaire. Un questionnaire qui va vous permettre d'y voir un peu plus clair dans les dons que vous savez avoir, que vous connaissez, et peut-être ceux qui sont en vous de façon potentielle. Alors, ce n'est pas une méthode parfaite, mais j'aimerais que, si vous le pouvez, si vous le voulez, vous preniez un de ces questionnaires. Et au passage, je demande une petite participation de 50 centimes, si vous le pouvez, si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave, parce qu'on a fait une quarantaine de questionnaires d'une quinzaine de pages. Et l'idée, c'est de remplir, de répondre aux questions qui vous sont posées sans trop réfléchir, de la façon la plus rapide, la plus directe qui vous vient à l'esprit, de remplir ce questionnaire. À la fin, il y a une grille où vous pouvez rassembler, réunir toutes ces réponses et qui vous suggère certains dons. Et c'est intéressant parce qu'il y a des choses que vous connaissez. Peut-être vous avez un groupe de prière qui se réunit chez vous. Vous avez vraiment à cœur de prier. Vous avez le don d'enseigner. Vous aimez bien organiser des études bibliques chez vous. Tous ces dons, vous pouvez vérifier qu'ils sont bien en vous. Parce qu'il n'y a rien de plus triste que de penser souvent on souhaiterait avoir un don qu'on n'a pas vraiment. Et c'est un peu d'essayer de faire rentrer un de ces bouts de bois carrés dans un trou rond, dans ces tests pour les enfants. Et on frappe de toutes nos forces et on finit par casser le jeu, alors que si on rentre dans la bonne case, tout va facilement. Et on verra que la liste des dons que l'on trouve dans le Nouveau Testament n'est pas exhaustive. On pense que ce sont des pistes. Mais si vous n'avez pas le don d'opérer des miracles, de grâce, cessez de prier pour la guérison du pauvre paralytique dans sa chaise roulante. Alors c'est vrai que ça demande une certaine foi, un certain courage, et que l'Esprit Saint peut vous inviter à exercer un don de guérison, peut-être. Mais généralement, il va le faire d'une façon qui va ne pas attirer la gloire sur vous. Et c'est pour ça que dans Jacques, il est question d'aller auprès des anciens pour demander la prière, l'onction d'huile. Comme ça, on ne sait pas qui a... Peut-être qu'il n'y en a qu'un seul qui a vraiment le don de guérison. Mais l'idée, c'est de ne pas forcer et d'essayer de voir ce que Dieu vous a déjà donné. On peut aussi prier, si c'est le cas, pour recevoir certains dons. À la fin du chapitre 12, Paul dit « Aspirez aux dons les meilleurs » et il va nous montrer une voie par excellence. Il nous dit « On peut souhaiter les dons les meilleurs ». Et la question c'est « Ah oui ». Je veux avoir le don de parler en langue. Dans certains milieux chrétiens, le parler en langue, c'est devenu un peu la condition sine qua non du salut. Si vous ne savez pas parler en langue, si vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas ce don, on peut se douter de votre salut et de votre vie chrétienne. On verra que ce n'est pas du tout le cas. Mais ce qui est important, c'est d'avoir le don qui correspond à la tâche que Dieu vous a confiée. Si vous vous retrouvez seul et qu'il n'y a personne pour enseigner, vous pouvez demander à Dieu qu'il vous donne un don d'enseignement. Et vous pouvez lui demander par la même occasion de vous donner un don d'étude de sa parole. Parce que si vous voulez enseigner, il va falloir que vous étudiez. Et souvent, et personne n'aimerait bien juste, c'est facile. On vient le dimanche matin ou le mercredi soir et on parle pendant 30 minutes, si tout va bien, une heure si on est un peu trop long comme Pierre. Et puis les gens écoutent, c'est formidable d'avoir de l'écoute. C'est intéressant, c'est formidable si ce qu'on a à dire est en accord et en harmonie avec la parole de Dieu. Mais le don le meilleur, c'est le don qui va vous aider dans votre tâche, dans la tâche que Dieu vous a confiée. Le pasteur Chuck Smith, qui était un grand bricoleur devant l'Éternel, disait qu'il avait tout un tas de scies pour découper les choses. Mais que la meilleure des scies, c'était pas nécessairement la scie avec un gros moteur derrière. La scie, c'était celle qui correspondait au travail qu'il était en train d'effectuer. S'il devait faire installer une serrure dans une porte en bois, la meilleure scie, c'était pas la grosse scie de bûcheron où il faut se mettre à deux pour la faire bouger. C'était cette petite scie à cloche qui lui permettait de faire un trou circulaire dans lequel il pouvait loger la serrure. Et ça, c'est un peu la même chose pour les dons, mais c'est intéressant aussi de savoir que Dieu peut vous avoir déjà donné des dons, et tout ce qu'il attend, c'est que vous les mettiez en pratique pour les faire fructifier et surtout pour servir l'Église et la faire grandir. Et ces dons qu'on va regarder, les dons de manifestation, manifestent la présence et la puissance de Dieu au milieu de son peuple, dans l'Église. Pour la facilité d'étude, on peut regrouper ces neuf dons. Un terme qui est des fois utilisé, c'est le nom de charisme. Un don ou un charisme, c'est la même chose dans la Bible. Et on peut voir les dons de parole. Ça va regrouper les paroles de sagesse, paroles de connaissance et les paroles de prophétie ou prophétie. Il va y avoir des dons d'action, la foi. La foi va vous permettre d'agir parce qu'elle va vous donner la confiance de vous lancer dans quelque chose. Il y a les dons de guérison, guérison au pluriel, pas seul singulier, parce qu'il y a plein de différents types de guérisons. Et il y a même l'opération de miracles. Est-ce que vous croyez que les dons de miracles sont pour l'Église aujourd'hui? C'est une bonne question. Il n'y a aucune raison de penser qu'ils ont cessé, qu'ils ne devraient plus exister. On verra peut-être pourquoi on ne les voit pas souvent. Et puis, un autre groupe de charismes, c'est dans le domaine de la prière. Il y a le domaine de la parole, de l'action et de la prière. Ça, c'est le don des langues, le don d'interprétation et aussi le discernement des esprits, le don de discerner les esprits. Et ça complète les dons de motivation qu'on avait vus la semaine dernière dans Romains. Et ça complète ce qu'on appellera peut-être les dons de maturation dont il est question. On verra ça la semaine prochaine dans Éphésiens 4. Mais regardons d'abord les dons de parole. Notre vie chrétienne, elle se fonde sur la parole de Dieu. Si vous enlevez la parole, vous pouvez avoir des clubs où on utilise la psychologie, des clubs de convivialité, et ça existe. Il n'y a pas besoin de venir à l'église. Mais l'église, elle doit être animée, elle doit être soutenue, elle doit être le lieu où la parole est répandue, la parole est explicitée, la parole est mémorisée, la parole est mise en application. Alors il y a ce don qu'on appelle la parole de sagesse qui se trouve aussi à côté donc de ce qu'on appelle le don de la parole de connaissance. La connaissance et la sagesse sont souvent des notions proches l'une de l'autre. La connaissance, c'est l'accumulation de faits dans votre conscience, dans votre intellect. Aujourd'hui, on a plus besoin de connaissances puisqu'on a Google. Comme dirait Tonio, on a Wikipédia. Mais, non, je plaisante bien sûr, mais c'est vrai que les éléments, les faits, les statistiques, les vérités objectives sur plein de choses, on peut les avoir. On peut les accumuler dans notre mémoire, on peut être capable de les ressortir. Ça, c'est le domaine de la connaissance. Et Paul disait qu'en général, la connaissance, elle nous gonfle d'orgueil. C'est pour ça que les gens qui ont des diplômes, ils aiment bien le faire savoir aux autres. Ils ont travaillé assez longtemps, assez dur, ils ont sacrifié assez de temps, d'argent, ils ont investi tellement qu'ils veulent savoir qu'ils sont docteurs en droit et titulaire d'un DESS en économie appliquée. Et il y a la carte de visite avec tout. Et c'est pas la connaissance en soi n'est pas une mauvaise chose, mais ce qui est bien plus important, c'est la sagesse. Et la sagesse, c'est la capacité d'utiliser ses connaissances à bon escient. On priera pour eux et je vous invite à prier pour cette terrible catastrophe qui se produit aux Philippines et peut-être maintenant qui arrive au Vietnam, cet ouragan terrible qui a des vents de 315 km à l'heure, qui a probablement déjà fait une dizaine de milliers de morts aux Philippines. Et ces gens au Vietnam, ils ont la connaissance de ce ouragan qui arrive sur eux. Ils peuvent chercher dans Google toutes les statistiques et expliquer à leurs voisins, ou alors ils peuvent avoir la sagesse de dire, connaissant cette menace et cette chose qui arrive, je vais avoir la sagesse de m'éloigner du chemin prévu de cette terrible tempête, ce terrible cataclysme qui arrive. Ça, c'est la sagesse. Et de la même façon, il y a la parole de sagesse. Et une définition, encore une fois, c'est pas explicitement cité dans la Bible, mais on pourrait dire c'est l'expression momentanée. Ça veut pas dire qu'une fois qu'on l'a eu, on peut le faire à tout moment, à notre guise. Non, c'est une expression momentanée de la sagesse divine. Donc c'est donné par Dieu pour prendre des décisions excellentes, pour résoudre des problèmes difficiles, répondre à des besoins, réfuter des arguments. La parole de sagesse, ça va être une application de la vérité aux besoins d'une personne. Ça va être généralement un conseil, une façon de résoudre un problème de façon surprenante. Jésus, encore une fois, est celui qui a le mieux illustré tous ses dons, et il avait le don de parole de la sagesse lorsque, par exemple, dans Matthieu 22 ou Luc 20, ses adversaires étaient venus le trouver pour le coincer, entre guillemets. Ils voulaient le prendre au piège de ses propres paroles, en lui demandant « Est-ce qu'il faut payer ou non les impôts aux Romains, payer le tribut à César ?» Il savait que s'il répondait « Oui », il serait traité de collaborateur, qu'il était en faveur des occupants, donc il était un ennemi d'Israël. S'il répondait « Non », on le dénoncerait auprès des autorités comme quelqu'un qui incitait à la révolte, quelqu'un qui avait un bonnet rouge, et on pourrait, dans tous les cas, le coincer. C'était sans compter, sans cette parole de sagesse, lorsque Jésus leur dit « Pourquoi mettez-vous à l'épreuve, hypocrite ? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Il lui présente un denier, il leur demande « De qui sont cette effigie et cette inscription ?» Il y avait un portrait sur la pièce de monnaie, il y avait une mention qui parlait de César. C'était la représentation de l'empereur romain. Et Jésus leur donne cette réponse, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Il leur a cloué le bec. Ils se retrouvent le bec cloué dans l'eau. Pas très confortable. Et c'est quelque chose que Jésus promet à ses disciples dans Luc 21. Il leur dit « Je vous donnerai une bouche » et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Ça, c'est ce don de la parole de sagesse. Et peut-être que vous avez déjà fait l'expérience d'avoir une petite idée, une répartie. C'est tellement simple et tellement efficace, vous demandez d'où ça vient. Vous avez peut-être ce don de parole de sagesse. La parole de connaissance, c'est recevoir de façon surnaturelle des informations précises dans le but de prier ou de régler des problèmes dans le ministère. Là aussi, c'est un don remarquable pour ceux qui annoncent la parole. Je prie souvent pour avoir ces dons de connaissance ou ces dons de paroles de connaissance, de paroles de sagesse. Souvent, dans un sermon, quelqu'un va entendre des parties du sermon et ils vont penser que la personne qui enseigne ou qui prêche leur parle directement. C'est exactement connaître leur situation. Ils vont même des fois réagir violemment en disant « Mais qui vous a dit qu'il y avait telle ou telle situation dans ma vie ?» Et souvent, c'est pas du tout quelque chose dont le pasteur ou le prédicateur est conscient. C'est l'Esprit-Saint qui a mis quelque chose qui fait parvenir à la personne une parole qui va l'aider à régler un problème. C'est cette information surnaturelle qui est manifesté par exemple avec l'épisode de la Samaritaine au puits de Jacob avec Jésus, lorsque Jésus dit à cette femme samaritaine « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais si celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Ça, c'est cette eau du Saint-Esprit qui déborde. Et puis, il a cette parole. « Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. » La femme répond « Mais je n'ai pas de mari. » Et Jésus lui dit « Tu as bien fait de le dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris. » Et celui que tu as maintenant n'est plus ton mari, en cela tu as dit vrai. Comment il a su ça? Est-ce qu'il avait un drone à l'époque et qu'il surveillait, il volait au-dessus de la maison de cette Samaritaine pour savoir quel était le trafic qui se passait, et ça depuis le temps où elle avait eu 5 maris? Non, il n'avait aucune idée de façon naturelle de savoir cette vérité. C'était l'Esprit-Saint qui lui avait révélé, et ça c'est vraiment quelque chose qui permet de dénouer des situations de crise, des situations où il y a du mensonge. Cette révélation de la vérité, elle est remarquable. Et puis on peut parler du don de prophétie, dont on avait déjà parlé dans Romains 12. Et là, c'est simplement dire la vérité. C'est parler une parole inspirée par Dieu de façon à faire briller la lumière divine sur une personne, sur un groupe, sur un problème d'une personne ou d'un groupe, et de manifester le cœur de Dieu avec conviction et encouragement. Dans l'Ancien Testament, souvent la prophétie, c'était plus la prédiction. Dans le Nouveau Testament, c'est plus la proclamation. Et le don de prophétie, ça revient souvent à réaffirmer la parole de la Bible, la parole de Dieu, pour l'appliquer à des situations. Paul dira dans 1 Corinthiens 14, « Aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. » Plus loin, il dira « Pourquoi ? Parce que celui qui prophétise édifie l'Église. » Lorsque vous annoncez, vous affirmez la vérité biblique dans une situation, ça va édifier, ça va bâtir l'Église. Pour Jérémie, dans Jérémie 1, l'Éternel avait dit « Voici que je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et contre les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu fasses périr et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Ça peut être une exhortation en douceur, ou ça peut être vraiment un ordre très strict. Ça peut être une consolation. Et là aussi, on voit les chrétiens qui priaient, et pendant l'acte 13 nous dit, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et ce don de prophétie, c'est pas quelque chose qui va nous dépasser, par laquelle on va être dépassé. On verra dans 1 Corinthiens 14 que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Tous ces dons, vous gardez le contrôle. Tous les manifestations bizarres où les gens perdent le contrôle d'eux-mêmes ne sont pas des dons spirituels véritables. Ce sont des contrefaçons. C'est très important de le savoir. Il dira pour les prophètes que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Il dit de faire les choses dans l'ordre. C'est un des caractéristiques. Je crois qu'on va être obligé d'en rester à ces trois premiers dons. Mais je vais vous inviter donc à prendre ces questionnaires, il devrait y en avoir assez pour tout le monde. Et remplissez-les, faites la grille et voyez quels sont vos résultats. Et si vous le voulez, je vous ai mis un autre tableau de résultats, c'est très bref à la fin. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me les amener la semaine prochaine, me les donner pour que je sache comment vous voyez. Comme ça, si vous me dites que vous avez le don de libéralité, je vous donnerai les factures de l'Église. Si vous avez le don de service, je vous appellerai pour préparer des plats, pour venir faire le ménage. Non, c'est vraiment pas quelque chose pour vous culpabiliser, c'est quelque chose pour vous aider. Et vous allez voir que il y a des choses que vous connaissez. Et souvent, ce genre de questionnaire, c'est basé sur ce qu'on a déjà pratiqué, sur les dons qu'on a déjà exercés. Vous avez de la joie à enseigner les enfants? Est-ce que vous avez, que les enfants peuvent être insupportables et vous continuez à sourire et être dans la joie? Ces choses-là. Et on se dit, je l'ai jamais fait, je veux surtout pas essayer. Ou alors vous l'avez fait. Mais là, il y a des questions qui vous permettent de voir les dons potentiel que vous avez. Peut-être des choses que vous n'avez jamais encore faites, mais il y a des caractéristiques en vous qui font que peut-être vous devriez essayer. Et là aussi, c'est toute la vie chrétienne se vit par la foi. Il faut se lancer, il faut s'y mettre. Aujourd'hui, j'étais forcé de, par la foi, de me charger de la louange, parce que toutes les personnes qui d'habitude s'en occupent étaient dans l'incapacité d'être là. Et donc, Merci de votre gentillesse et de votre patience. Mais on a tous des dons, et si on ne les met pas en pratique, souvent on va forcer d'autres personnes à les pratiquer. Ça ne sera pas aussi bien, ça ne sera pas aussi riche, et ça va moins profiter à l'édification de l'Église, du corps de Christ. Voilà, on va prier, si vous voulez. Seigneur, merci pour les dons que tu viens nous donner, ces dons que tu veux que nous mettions au service de l'Église, pas pour nous en glorifier, mais pour faire fonctionner ton corps. Merci pour cette image si puissante de ce corps à laquelle nous pouvons tous faire référence intuitivement, de façon évidente et naturelle, et qui nous montre que l'Église, c'est pas une collection de personnes, c'est une interaction profonde, c'est une convivialité, c'est un corps, Seigneur. Prions que tu sois à l'œuvre pour chacun de nous, Seigneur, pour que tu sois glorifié, que nous puissions ensemble être baptisés dans le Saint-Esprit, qui est cette puissance, qui est cette eau de ton esprit qui puisse aller abreuver tous nos contemporains, tous ceux qui nous entourent, nos voisins, nos parents, nos collègues, nos amis, nos ennemis, Seigneur. Sois à l'œuvre. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.